on va commencer peut-être par des choses assez simples, à la fois sur le film et sur le mélodrame. Bon, j'en avais un peu parlé avant que la séance commence, mais cette idée que c'est presque un mélo archétypal, dès le carton d'ouverture, à savoir c'est une histoire presque générique qui pourrait se passer n'importe où. Et pourtant, c'est un film qui, comme beaucoup de films de Murnau, et c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait commencer par Murnau, qui se tient un peu sur la brèche et entre des forces contraires. J'en parle à dessein parce que ça me semble un des éléments dynamiques du mélodrame, à savoir que déjà c'est un cinéaste qui est vraiment à mi-chemin entre le muet et le parlant, et d'ailleurs c'est un film muet, mais c'est aussi l'un des premiers films sonores de l'histoire du cinéma. C'est aussi premier film américain de Murnau, qui est donc un cinéaste allemand, et en même temps qui fait un film allemand. Et d'ailleurs, il me semble, moi je trouve ça très amusant, on y reviendra, mais il y a quelque chose de très ludique dans la forme de Murnau. Mais le prologue raconte presque ça, c'est-à-dire cette ouverture sur la gare, le train qui part, on voit un paquebot, donc Murnau est presque en scène sa traversée de l'Atlantique, sauf qu'on arrive ensuite à un petit bateau qui nous mène à quoi ? En fait, un village qui n'est pas du tout américain. On nous mène à un décor européen de pastoral qui ne ressemble absolument pas, en tout cas, au décor qu'on peut voir, même à la même époque, les films de John Ford. C'est-à-dire, c'est intéressant, le film est tourné en partie dans des décors de films de John Ford. Ce n'est pas du tout la même Amérique. C'est l'Amérique vue par un Européen. Donc, il y a ces écarts-là. Et puis, évidemment, il y a des écarts beaucoup plus évidents, saillants, qui pourraient même paraître un peu archétypaux, à savoir la ville, la campagne, la brune, la blonde. Le soleil, la lune, la mort, la vie, enfin voilà, il y a des dualismes qui sont comme ça, qui pourraient paraître un peu pachydermiques, et en même temps, plutôt que d'opposition, plutôt que dualisme, je pense qu'on pourrait parler en termes d'écart, c'est-à-dire que ce qui est passionnant dans cette architecture vraiment du mélodrame qui paraît un peu rigide, c'est que ça n'introduit que du mouvement, que de la circulation, à la fois entre les personnages, entre les situations, le film lui-même, et quelque part une boucle, puisque la deuxième partie est en quelque sorte le négatif de la première, et présente même, on pourrait dire, deux conceptions du sentiment amoureux, et plus loin, deux conceptions du monde qui seraient radicalement différentes. La première, c'est celle de la brune, et plus loin de la ville, puisque cette dame est d'ailleurs littéralement la femme de la ville, avec... Elle incarne la ville, elle incarne la puissance corruptrice de la ville. Et là, on a une vision du sentiment amoureux qui serait rectangulaire, angulaire. D'ailleurs, tout le film repose là-dessus, c'est-à-dire, ne serait-ce que sur des détails très prosaïques, vous regardez par exemple les coupes de cheveux, elle a une frange au carré, alors qu'elle, elle a le visage complètement rond, la blonde, avec un chignon. Et tout le film, en fait, si on détaille plan par plan, c'est la femme de la ville, le décor est anguleux, elle est surcadrée, alors que tout est rond chez le personnage féminin.
Pour prendre un exemple concret, par exemple, ouais. Le tout début du film, quand la femme de la ville siffle le mari qui est dans sa maison, le mari qui est donc sous l'emprise de la femme de la ville est dans un espace entièrement surcadré, en rectangle, et qu'est-ce que fait la femme, sa femme légitime, qui lui apporte à manger ? Elle apporte des assiettes rondes, elle apporte une soupière, etc., etc.
Il y a même un détail très amusant, mais c'est pour dire le niveau de précision du film, c'est que quand il est appelé par la femme de la ville, il y a un pain sur la table, et le pain est coupé vraiment en angle droit de manière angulaire, et quand on voit le contre-champ quand la femme arrive, au contraire, c'est une boule de mie bien ronde. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, le pain serait... Non, mais c'est... Et il y a quelque chose d'évident là-dessus, il y a un raccord qui synthétise presque tout ça. C'est au milieu du film, on revient à la femme de la ville, et elle est en train d'encadrer une annonce dans un journal. Et il y a un raccord sur son visage qui est même carré, voilà. Et ensuite, on raccorde sur quoi ? Sur la fête foraine, qui est une spirale lumineuse. Et vraiment, c'est dans le détail, même quand le mari annonce à la femme qu'ils vont partir à la ville, que fait l'épouse, de manière même un peu caricaturale, elle tourne sur elle-même. Elle fait tout le temps la toupie. Elle n'arrête pas de danser, elle n'arrête pas de tourner. Alors qu'au contraire, la femme de la ville est une femme qui est dans un rapport d'emprise. D'ailleurs, la première phrase et la seule phrase, si je ne me trompe pas, qu'elle dit durant tout le film, c'est... est-ce que tu es à moi totalement ? C'est un rapport de possession.
C'est comme to the city, ce qui veut dire exactement la même chose.
C'est une injonction qui est répétée vraiment presque comme un mantra maléfique. Alors je ne sais pas si dans la salle, les gens ont vu Nosferatu, du même Murnau, un peu moins, c'est un très grand film aussi, mais c'est quasiment la même histoire. Hein. Vous remplacez Nosferatu par la femme de la ville, ça fonctionne de la même manière, c'est le vampire chassé par l'aurore, et il y a encore cette histoire de film coupé en deux où on est dans... les Carpates pour arriver à la ville civilisée. Sauf que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la ville qui corrompt.
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, sur le au fond, ce qui pourrait apparaître comme un manichéisme dans la structure du film, une espèce d'opposition thématique entre des grands concepts un petit peu opposés, le jour, la nuit, la chasteté, la corruption sexuelle, ce genre de choses-là. Je pense que ce qui permet de bien problématiser la question et de montrer en quoi le film n'est pas simplement un film qui serait passablement conservateur dans sa représentation d'un imaginaire bucolique contre la modernité, c'est précisément parce qu'il est question tout le temps de trajectoire et de dynamique, et qu'au fond, que font les personnages ? Ce ne sont pas des agents du bien qui iraient combattre la ville et y résister, ce sont des personnages qui la traversent. C'est-à-dire que tout le film repose sur un mouvement de trajectoire aller-retour, et... les personnages vont faire l'expérience de la ville et en retirer quelque chose. Alors ça passe par des choses tout à fait simples, par exemple le fait que l'arrivée dans la ville soit médiatisée par une série de moyens de locomotion différents, la barque qui permet de quitter le lac, ensuite ils courent vers le tramway qui les emmène vers la ville, et ensuite une traversée de différentes boutiques, à chaque fois pour en retirer quelque chose, pour créer une différence, si on peut dire. Par ailleurs, il y a aussi cette idée qui me semble très importante dans le film, que les personnages ne cessent de faire l'expérience de l'espace comme de grandes images à l'intérieur desquelles ils veulent rentrer et dont ils ressortent. Alors, c'est tout à fait explicité, par exemple, lors de la première entrevue entre le mari infidèle et la femme corruptrice. Elle évoque la ville. Qu'est-ce qui apparaît alors ? Une espèce de fond dans un fondu enchaîné, une représentation de la ville qui ressemble à un grand film devant lequel ils sont situés. Et... qu'est-ce qu'on aura plus tard quand le couple enfin réuni se retrouvera dans la ville ? La rue qui est elle-même remplacée par un système de fondu enchaîné, par un espace bucolique comme celui duquel ils viennent.
Alors bucolique, oui, et en même temps c'est un marécage. On voit d'abord le travelling sur les traces de boue, et en fin de compte ce mirage c'est aussi les miasmes du marécage. Hein. Il y a quelque chose de... Et de la même manière, cette vision bucolique n'en est pas vraiment une complètement, puisque c'est une projection. Ça c'est aussi très intéressant, il y a deux rapports presque amoureux là, à l'intérieur même de la structure qu'on a commencé à développer, qui serait un rapport de projection d'un désir sur le monde et un rapport où le monde se reconfigurait à l'aune du désir. C'est-à-dire qu'on voit que la projection, en fait, est un mirage. C'est-à-dire que quand ils sont tout heureux, là, dans cette espèce de paradis bucolique, ils se heurtent quand même à un moment au carrefour, à la ville, qui montre une résistance.
De la même manière, quand ils sont, après avoir dansé leur petite danse paysanne, ils se retrouvent à rêver qu'ils ont des angelots au-dessus d'eux, ouais. Et c'est coupé par le serveur qui leur demande de payer.
Oui, et d'ailleurs qui, avec son petit calepin rectangulaire, ouais, vraiment casse l'unité.
Alors que les angelots, voilà. Eux, forment un cercle autour de leur visage.
Il y a de ça, et ça c'est très intéressant parce que quelque part, le personnage féminin, c'est ça qui est curieux, c'est qu'à la fois on peut dire que les personnages féminins sont très archétypaux, et en même temps, c'est complètement les moteurs de l'action. C'est-à-dire que même, tu parles de cette scène de la fête, c'est-à-dire que le mari qui est tout content aussi d'être exempt de faute, voilà, qui a connu sa rédemption, lui veut se concentrer sur le jeu où il faut mettre des balles dans des trous, hein, encore une fois sur la circularité, alors que fait son épouse ? Elle est attirée par la danse derrière les grands rectangles des vitres, et elle veut faire l'expérience. Voilà. Et c'est vrai que tu parles d'expérience, c'est très juste, même la photographie répond à cette espèce de balade dans une ville qui devient un décor féerique. Si vous avez remarqué, en fait, la toile de fond sur laquelle il pose, c'est exactement le même décor. C'est vraiment une toile de fond dont à un moment ils vont s'extirper, et d'ailleurs ils s'extirpent en fait de la photo, ils posent et puis finalement ils s'enfuient.
Précisément, ils s'extirpent de la mise en scène photographique, ouais. de la photographie de couple, puisque les couples qui sont sur les autres photographies qu'on voit derrière cette espèce de vitre sur laquelle se reflète leur propre image, sont des couples guindés qui ne s'embrassent pas. Or eux, ils créent une différence, ils créent du trouble. C'est en ce sens-là qu'on ne peut pas dire que le film est manichéen. Ouais. À chaque fois qu'ils vont dans la ville, ils vont créer une différence, ils vont créer une, ouais, nouveauté, et en même temps ils vont en récupérer quelque chose. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la ville par opposition à la campagne ? Bah, la ville, c'est d'abord la fée électricité, on pourrait dire. C'est la lumière, c'est la luminosité. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont quitter la ville à la fin du film ? D'abord, ils quittent la fête foraine. Au moment où ils s'en vont de la fête foraine, il y a un feu d'artifice qui part de la base de l'écran à l'endroit exact où ils se trouvent, ouais, comme si la lumière jaillissait d'eux-mêmes. Et surtout, quand ils se retrouvent sur l'espèce de petite barque là, avant la tempête, la lune se reflète sur une petite portion du lac, ça forme une sorte de grand trait blanc sur la surface de l'eau, à l'endroit exact où se trouve leur barque, comme, mm-hmm, si la barque était elle-même luminescente.
Mais là, il y a quand même un truc intéressant, c'est que... parce qu'on pourrait dire quelque part que le film est presque aussi, on en avait évoqué dans nos discussions, une métaphore de l'expérience cinématographique, puisque la moitié du film, c'est vraiment coupé en deux, hein, vous pouvez couper à la seconde près, la moitié du film, c'est quand le mari assiste à cet autre mariage et qu'ils font en larmes. Voilà. Donc c'est vraiment l'arête sur laquelle se fonde le récit, il peut se rembobiner à partir de là. C'est une scène, c'est une scène de représentation cinématographique quelque part. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que pour aller à la projection, et donc vers le désir projeté, qui est un désir... qui est un mirage, hein. En fait, il va se produire exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand ils entrent, ils regardent les mariés entrer dans le cadre, dans l'écran, et qu'est-ce qui se passe quelques minutes plus tard ? Ils en ressortent, et ils vont vers le premier plan. C'est ce qui passe durant la scène du feu d'artifice aussi. C'est-à-dire qu'on sort d'un rapport qui, en fait, la scène du marécage le pose de manière très claire. En fait, on va aller à l'intérieur du plan, on va aller à l'intérieur de l'image pour en faire partie, mais au contraire, on en ressort. on en ressort, on fait l'expérience de l'image pour s'en ressortir en tant que couple et que la lumière émane de soi. Enfin, le dernier plan, c'est ça, hein. C'est la lumière irradie pour recouvrir le cadre. Et je vous parlais tout à l'heure de cette spirale de la fête foraine, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on voit dans le noir une spirale resplendir et puis la lumière inonde l'écran.
Et de manière générale, cette idée de rentrer dans l'image pour en ressortir en étant différent, c'est la structure même du film, puisque du point de vue de sa cyclicité, quasiment tout ce qui va se passer dans la première partie va trouver son inversion exacte. Mmh. Alors par exemple, tout bêtement, la scène de l'assassinat raté de la femme va se reproduire dans la scène de la tentative d'assassinat de la maîtresse. Ou par exemple, il va y avoir un passage très intéressant concernant justement la scène de la tentative d'assassinat de la femme. Elle se déroule donc, comme vous l'avez vu, sur une barque qui est sur le lac, qui est relativement paisible. Or, qu'est-ce qui se passe lors de la tempête ? C'est l'inversion exacte, puisque maintenant c'est le lac qui devient un espace de danger et la barque qui est le seul endroit de sécurité pour le couple.
Oui, c'est comme si la scène était vraiment reversée comme un gant.
Et ça, c'est intéressant aussi, puisque ça.
Alors oui, attends, on fait peut-être une pause parce que. Vas-y, il y a peut-être des réactions, sachant que si vous voulez un micro, on peut vous en faire passer. Et on a aussi des
lingettes.
Voilà, des lingettes pour désinfecter, comme dans les conseils.
Et si vous avez des questions, il ne faut pas enlever le masque. Pardon. Ça, on m'a pris. C'est ce qu'on m'a dit.
D'accord. Je suis une sanitaire. Est-ce qu'il y a des réactions, des impressions, des désaccords, des plaintes ?
Des gens qui n'ont peut-être pas aimé le film, hein, tout simplement.
Oui, du coup, on parlait de du fait un peu des.
Alors, est-ce que vous pouvez parler davantage de votre. Alors, en fait, vous êtes enregistré, donc ouais. Si vous pouvez bien parler comme ça en face du micro.
Ok, ça va.
Oui, ça va.
Ok, ça marche. Vous parliez un peu de la sorte de dualité et c'est vrai que mais j'ai l'impression que c'est aussi c'est un peu le mouvement va dans toujours se fait par des contrepoints. Et c'est ces contrepoints-là qui fait le mouvement. Par exemple, je pensais à la scène où tu as à la fois la femme avec l'enfant et le mari avec l'amante, et en fait, où les plans s'enchaînent et en fait se répondent exactement.
Ouais, c'est très juste. Et alors même cette scène, moi, je vais en parler, je trouve que c'est incroyable. Parce qu'on voit en fait que, je vais parler d'écart tout à l'heure, mais qu'à l'intérieur d'un même plan, peut y avoir des effets d'inversion et de réinversion. Cette scène, c'est un plan séquence très connu, hein, c'est quand le personnage va donc rendre visite dans le marécage à sa maîtresse. Et en fait, la mise en scène n'arrête pas de changer de perspective. C'est-à-dire qu'on voit d'abord le personnage de dos en train d'avancer, il traverse un petit pont, donc il y a toute une série de traversées de seuil qui l'amène vers l'infidélité, qui est quand même, on est quand même dans un film très pieux. Hein. Et donc la caméra le suit. Donc a priori, il y a une association. On peut le supposer du point de vue de la caméra avec la trajectoire du personnage. Et puis, le personnage commence à s'enfoncer dans le plan, il franchit une barrière, et là, la caméra va le suivre latéralement. Donc, on a une dissociation des points de vue. Et puis, il se retrouve à nouveau. Et alors là, la caméra englobe totalement le point de vue du personnage, s'aventure vers cette espèce de trouée avec les roseaux et aperçoit la femme. Donc, on peut s'imaginer, si on suit la logique de la scène, que l'homme est en train de regarder la femme. Ben non! Pourquoi ? Parce qu'il sort par la gauche du cadre. C'est-à-dire qu'en gros, si on suit la logique du plan séquence, on a une association de la caméra avec le déplacement du personnage, une première dissociation, une réassociation quand il a franchi la barrière, et une nouvelle dissociation. C'est-à-dire, en fait, c'est hyper ludique. Ça n'arrête pas de changer de vitesse, ça n'arrête pas de changer de perspective. Et en même temps, cette dissociation, elle participe de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le personnage est complètement enserré. Et on le voit plus loin, quand il rêve au fait de tuer sa femme, puisque c'est quand même... tu parlais tout à l'heure du film miroir, mais c'est quand même un personnage qui veut tuer à peu près tout le monde durant le film. Enfin, il y a quand même quelque chose de très violent là-dessus. Il est ensouveli sous l'eau, et puis évidemment, quand il s'apprête à partir avec sa femme, il y a comme un vampire. En fait, c'est pour ça que je compare ça à Nosferatu. Il y a le personnage de la femme de la ville qui apparaît en surimpression en train de l'enserrer, et puis qui commence à occuper tout l'espace de l'écran. C'est à la fois sa bouche, c'est à la fois ses yeux. Enfin, on est même quelque chose de Mabuse. Hein. C'est là, il y a des traces encore de l'esthétique allemande que Kit Murnau, il fait Faust juste avant, voilà, qui est un film que plein de surimpressions, qui est complètement dans cette tradition-là du cinéma allemand. Alors qu'au contraire, le personnage de la femme légitime, comme tu dis, c'est très puritain tout ça, tout de même, est un personnage au contraire qui est dans un rapport d'harmonie. C'est pour ça que je parlais autant de la circularité, que tout est rond chez elle, parce que c'est l'unité absolue. Voilà.
Harmonie d'ailleurs qui se réactualise lors de la séquence de la danse quand ils sont dans la fête foraine où le couple va se retrouver au diapason l'un de l'autre puisqu'ils vont réaliser exactement les mêmes gestes en miroir.
Et ils sont en demi-cercle devant une assemblée.
Voilà. Même et si... ils retournent sur eux-mêmes en plus.
En même temps, là on voit quand même qu'il y a... Il y a quelque chose dans cet itinéraire bucolique qui sonne par moments un peu faux. Enfin, il y a une forme de dissonance dans le sens où on voit quand même dans les interstices des scènes comment les personnages ne cessent d'être jugés un peu comme des ploucs de la campagne qui viennent et qui d'ailleurs voilà témoignent d'un écart. Par exemple, quand très naïvement l'épouse dit au barbier qui lui dit bah, revenez chez vous, oui, bah, nous visitez-nous aussi, venez nous rendre visite dans notre villégiature. Voilà, il y a quelque chose d'un peu. Mais ce que je disais sur ces deux forces contraires qui peuvent animer un plan, ce qui est assez passionnant dans le film en fait, c'est que ça anime à la fois la partie mélo, mais ça anime aussi la partie presque burlesque, puisque vous prenez par exemple un gag tout bête, hein, un gag même vraiment qu'on pourrait trouver dans un Chaplin. Durant la danse, il y a une femme dont les bretelles n'arrêtent pas de glisser. Voilà, c'est une bretelle droite, c'est une bretelle gauche, ça enserre les deux plans. Et évidemment, le personnage de la ville veut aussi que ça reste OK. Bah, que ça continue à former un carré, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il se passe la même chose quand la femme, qui elle refuse d'être enserrée par tout le monde chez le coiffeur, s'assoit et elle est prise en étau entre un espèce de mufle et de l'autre côté un dispositif pour réchauffer des serviettes. Je suis désolé, je ne connais pas le nom de ce truc, mais voilà, ça permet de réchauffer les serviettes. Et donc en fait elle est coincée entre deux forces et elle sait pas comment s'asseoir, elle sait pas comment se positionner. C'est-à-dire que voilà, cette logique d'écart qui va structurer la mise en scène, c'est à la fois un principe de tragédie, c'est à la fois un principe d'élégie par moment, de surimpression, de quelque chose de complètement mirifique et de merveilleux, et c'est aussi un principe comique.
Mais ce qui est intéressant justement, c'est que si on était dans une sorte de tragédie fataliste, les personnages resteraient coincés, enserrés par la ville et seraient bloqués comme ça, on le laisse entendre dans la scène du barbier. Alors, mais ce qui fait, je trouve, la force
ouais, sonore. Enfin, oui, c'est un film sonore là-dessus aussi.
Ouais, mais ce qui m'intéresse, tu vois, c'est cette idée aussi que les personnages, finalement, dans la première partie du film, se meuvent peu. Et d'ailleurs, qui c'est qui induit le mouvement ? Bah, comme tu l'as dit, c'est la ville, hein, c'est ce train qui ouvre le film, puis c'est le bateau, puis c'est la femme infidèle, enfin la femme corruptrice, qui initie le premier... La tentatrice. Qui initie le premier long plan séquence du film quand elle sort de sa maison pour aller rejoindre la maison du mari. Il y a une espèce de plan séquence qui doit durer quand même une bonne minute, hein, ce qui est conséquent pour un film de cette époque-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Quand est-ce que va s'opérer le retournement ? Bah, c'est au moment précis où le mari va décider de ne pas tuer sa femme. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir une série de mouvements qui vont se télescoper les uns dans les autres. La barque qui est ramenée sur la rive, la course des deux amants jusqu'au tramway, le tramway qui les ramène jusqu'à la ville, la balade jusqu'au espèce de salon de thé.
C'est juste, mais tu oublies le clocher. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce moment où il y a le fatum sonore, c'est-à-dire que d'abord il y a le premier coup... vraiment des cloches quand ils prennent le bateau. Et puis déjà, cette scène est bizarre, puisque cette scène s'interrompt, elle recommence. Il y a le chien qui va tout perturber. Bon, il y aurait tout un truc sur l'animal aussi, le cochon. Voilà,
c'est sur la jument qui apparaît aussi.
La jument qui apparaît, qui fait
les coucou. Oiseaux qui s'envolent. Voilà. Enfin, non, non, non.
Sur ça, d'ailleurs, le film est très bizarre, puisque comme c'est un des premiers films sonores, il y a des petits bruits, enfin des petits bruitages comme ça, qui sont parfois. Il y a vraiment un son de hennissement comme ça qui surgit dans le. Presque comique. Mais il y a quand même. Là, encore une fois, c'est Nosferatu. Il fait quand même. Ça vous. Il fait ça avec ses bras, voilà, pour se cacher de la lumière du soleil et surtout par la déflagration qu'est la cloche. Et de la même manière, la cloche retentit de nouveau à la fin, la cloche retentit durant le mariage. Donc il y a quand même toujours dans le mélodrame quelque chose qui serait voilà,
de toute façon,
la fatalité.
Je pense que c'est intéressant que tu parles de la cloche parce que c'est un effet sonore et il faut bien entendre que dans le mélodrame, c'est aussi un genre qui a à voir avec la musique, avec la mélodie. Et si ce film est aussi capital dans l'histoire du mélodrame, c'est précisément parce que c'est un des tout premiers films avec une bande-son synchronisée. Ouais. Je pense que c'est Metropolis qui doit précéder, qui doit être le premier à avoir ça. Et ensuite, la bande originale est complètement composée pour le film. Elle n'a pas bougé depuis 1927, 28, je ne sais plus quand date le film.
27.
Et le son va venir même en relais de l'expression des sentiments des personnages. C'est explicite, par exemple, quand ils sont en train de chercher la femme à la fin, après le naufrage, les cris du mari pour la chercher, ou le cri de la espèce de nurse qui s'occupe du bébé, là, quand elle annonce qu'elle a survécu, sont relayés par des cors anglais. À chaque fois, le son musical va venir faire le relais de l'expression de sentiments qui ne sont pas dissibles, on pourrait dire, avec des mots. Et ça va se retrouver, d'ailleurs, à l'époque même du parlant. Il y a plein de mélodrames où la musique va prendre le relais, justement, de l'expression des sentiments. Est-ce que vous avez des questions ?
On peut continuer.
Hein, il y a plein de choses aussi à dire, hein, sur ce film-là.
Il y a un point aussi qui m'intéresse, puisque... on essaie de voir sur le long terme, on a encore 9 séances hein, sur le mélodrame. Il y a des choses qui reviennent beaucoup. Alors, on a parlé des moyens de locomotion, le train, les bateaux. Il y a aussi tout un... On a presque failli faire un mini-cycle sur les mélodrames d'avions. C'est hallucinant, le nombre d'avions dans les mélodrames. Non, mais c'est vrai. Il y a même un acteur, à un moment, Jean Gabin, dans les années 30, il fait coup sur coup remorque, où il s'occupe donc d'un remorqueur, et en même temps, il fait La Bête humaine de Jean Renoir, adapté de Zola. Et là, c'est sa locomotive. Et il y a toujours cette... cette démarche.
Je sais pas si comme... La Bête humaine est un mélodrame.
La Bête humaine est un peu un mélodrame. La version de Renoir, en tout cas. Hein. Pas la version de Fritz Lang ou pas la version de Zola. Mais la Bête humaine de Renoir, c'est quand même un peu un mélodrame. Il y a encore une histoire de deux femmes, un homme pris entre deux femmes. Il y a une tragédie. Enfin, voilà. Ça, c'est un mélodrame. Enfin, moi, je pense que c'est un mélodrame. C'est toujours le problème. C'est comme le mélodrame est quand même une notion très fuyante. On peut parfois se poser la question, est-ce que c'est un mélodrame? Il y a des films qui ont des bouts de mélodrame. Là, même là, il y a quand même des effets comiques. C'est un mélodrame, mais c'est pas un mélodrame tout le temps. Mais en revanche, donc, les instruments de locomotion, de trajectoire, qui mettent aussi en scène les pulsions, les dynamiques des personnages. Donc c'est pour ça que je parle de La Bête humaine, parce qu'il y a ça chez Zola, et ça me semble très important. Mais aussi La Tempête. Il y a tout, enfin, c'est vraiment un genre où il vente tout le temps, il pleut tout le temps. Et en fin de compte, où la bourrasque intérieure des personnages va s'objectiver dans le climat, dans la météo. Vous allez voir, je ne peux pas vous annoncer tous les films qu'on va voir parce qu'on est encore en train de négocier pour les copies, mais le nombre de tempêtes qu'on a, c'est un genre très météorologique. Il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de fenêtres qui claquent, des gens qui prennent des pneumonies pas possibles. Et là, en l'occurrence, voilà, ce que tu disais, c'est très juste, c'est que la scène est inversée comme un gant, c'est-à-dire que c'est comme si toute l'énergie mortifère, destructrice de la tentative d'assassinat sur un lac calme, apaisé, etc., était complètement inversée à la fin, c'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un cadre bucolique, et autour d'eux, c'est le chaos, la barque se renverse, etc. Donc voilà, c'est des motifs qui sont omniprésents et presque de manière inconsciente, mais voilà, qui reviennent... pas forcément dans une logique référentielle, mais le mélodrame tourne autour de ces logiques-là, et donc de ces grands écarts entre quelque chose de complètement intime, à savoir un homme et une femme qui n'ont même pas de nom, qui sont l'homme et la femme presque de manière intrinsèque et archétypale, et puis le cosmos, les cloches qui retentissent, le monde qui se reconfigure, la vision, il y a quelque chose de miraculeux. Enfin, la scène finale, c'est une scène de miracle, la lumière... disciple mâle qui s'enfuit de la ville. Enfin, voilà.
Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement un plaquage de thématiques. Ça naît vraiment de la mise en scène. Par exemple, le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est au fond la conjonction entre le motif géométrique qui constitue le couple, c'est-à-dire le rond, et le motif visuel, c'est-à-dire la lumière.
Ouais, mais si on va sur ce terrain, il y a la lune. Tu vois, c'est là que ça devient.
Oui, mais la lune étant le reflet du soleil. Ouais. Tu vois, donc le reflet inversé, donc c'est la femme corruptrice, etc. C'est le reflet trompeur.
Oui, c'est juste. Il y a des gens qui veulent parler de la Lune, non? Qu'est-ce qu'on peut encore vous raconter? Alors, sur les animaux, tu voulais dire un truc sur les animaux?
Enfin, mais justement, ça allait dans cette logique,
dans la logique du mouvement.
Cosmologique aussi, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une unité qui n'est pas perceptible par les êtres humains, mais que tous les animaux sont capables de sentir, c'est-à-dire le danger, la violence, ou cette espèce de frénésie, comme c'est le cas du cochon, qui participe de la folie de la fête foraine, si tu veux. Après, c'est très charmant de voir un cochon sous aussi. Mais enfin,
oui, mais ça fait partie. Là encore, c'est quelque chose de très intéressant. À l'origine, on avait pour projet de vous présenter Tabou, qui est le dernier film de Murnau, et qui pour moi est un film encore plus coupé en deux, puisque c'est son dernier film, et que pour le coup, il filme en Polynésie. Il filme avec Flaherty, qui a réalisé
Nanook l'Esquimau,
qui est un film en fait documentaire, alors qu'au contraire, le cinéma de Murnau, pour dire un peu grossièrement les choses, vient plutôt de Méliès, c'est-à-dire de la surimpression, du trucage. Là, il y en a beaucoup. Hein, voilà. Et c'est un film, en plus, qui est pile poil entre la fin du muet et la fin du parlant. C'est un cinéaste allemand qui fait un film américain en Polynésie. C'est un film qui est coupé en deux entre paradis perdu. Et chez Murnau, il y a pleinement cette dimension-là. Et pourquoi je parlais de Tabou? Tu n'en as absolument aucune idée. J'ai perdu mon fil. Oui, sur la logique. Non, j'ai vraiment perdu mon fil. Je fais semblant de l'avoir trouvé, mais non, je l'ai perdu. Mais je voulais vous parler de Tabou, parce que Murnau me semble très intéressant. Cette question. Bah, oui,
Tabou
j'y reviens.
Est un film
j'y reviens.
Cosmique aussi. Hein,
j'ai retrouvé mon fil.
Vas-y.
C'est sur le documentaire. C'est-à-dire que là, on a quand même une séance assez rare, en fait, dans le cinéma muet, qui est un cinéma à l'origine très découpé. Alors là, on a des plans séquences, donc on s'énoile d'une conception. On va dire, là encore, pour être un peu caricatural et schématisé, vraiment au forceps, histoire du cinéma, une conception soviétique de la mise en scène qui reposerait avant tout sur le montage roi. Voilà, donc j'y vais au forceps.
Une conception griffithienne.
Oui, on peut aller... Oui.
Pour parler de cinéma américain,
mais c'est lié.
De montage parallèle.
Mais on a donc une conception du cinéma qui, a priori, est éloignée du champ du documentaire. Et en même temps, l'horreur, y a cette séquence où on filme, j'ai jamais vu ça ailleurs au cinéma, on filme un animal en train de devenir sou et en train de tituber. Et dans un spectacle en fait, qui est purement documentaire, qui est une forme de captation. Et vers la fin de sa vie, justement, moi, ça m'intéresse beaucoup qu'il filme Enfin, qui fasse Tabou, qui est un film complètement dual, qui est l'un de ses plus beaux films par ailleurs. Et il corrélise ça avec le cinéaste par excellence du documentaire à l'époque. Enfin, vraiment.
Du documentaire qui se fictionnalise.
Ceci oui, oui. Mais en tout cas, voilà.
Il y a une sorte de trajectoire commune.
Y a une forme, voilà. Ouais. On parlait de force contraire du mélodrame. Chez Murnau, finalement, il y a Méliès qui rencontre Lumière. Enfin, on peut. Il faut forcément aller sur cette dimension-là. Et oui, il y a des moments en fait, de pure captation. Et en même temps, de trucage, bah, j'ai entendu quelques petits rires, ce qui est naturel parce que c'est tellement visible. La scène où ils ressortent de l'église et ils s'acheminent dans cette espèce de décor féerique. Oui, c'est l'ancêtre du fond vert. Quoi. C'est vraiment, ils se projettent sur un fond et ce fond se matérialise et l'artificiel se présente comme artificiel. C'est un artifice qui est donné à voir.
Ceci dit, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire une lecture à laquelle moi je souscris tout à fait, qui est qu'au-delà de la puissance du mélodrame et de l'émotion qui se dégage du film, c'est un film où Murnau se pose des questions concrètes et théoriques sur ce que c'est que de faire un film, que de produire des images, puisqu'il quand même raconte l'histoire d'un couple qui rentre dans des images, sort d'images, modifie des images de l'intérieur et est gagné par la lumière. Et qu'est-ce que c'est que la lumière, sinon l'origine même de l'image de cinéma. Et en ce sens-là, il m'intéresse beaucoup parce qu'il me semble qu'il fait partie de ces cinéastes des premiers temps du cinéma, comme Griffith, comme Eisenstein, comme en France quelqu'un comme Jean Epstein, qui ont toujours posé la question théorique de ce qu'était le cinéma à l'intérieur de leur film, mais en l'articulant à des questions techniques. C'est ça qui est très intéressant.
Et surtout de manière ludique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est aussi un film d'un cinéaste qui est en pleine mesure de ses moyens et qui joue avec la forme, qui tente des choses qui sont assez, en fin de compte, on en parlait, ce surgissement de scènes en fait très légères, très badines, burlesque après quand même l'histoire d'un homme qui a tenté de tuer sa femme et qui doit essayer de retrouver le pardon à ses yeux. Et en fait, il y a des variations à la fois de tonalité de scène à l'intérieur même des séquences qui sont vraiment prodigieuses. Et sur ça, Murnau quand même est un peu un spécialiste. Oui. Il y a Faust aussi. C'est aussi un film.
Mais même au regard des cinéastes de la même période, parce qu'il y a un film auquel on compare souvent, et d'ailleurs à raison, l'horreur, puisque c'est un film quasiment jumeau qui s'appelle Seventh Heaven de Frank Borzaghi qui partage c'est même plus que ça, puisqu'en fait la nuit Murnau tournait sur les studios de la Fox avec Janet Gaynor, et le jour sur les mêmes studios Borzaghi tournait avec Janet Gaynor Seventh Heaven. Donc c'était vraiment les mêmes,
comme quoi ces décors servaient à beaucoup de
films. Voilà. Et ce qui était intéressant effectivement, c'est que si on compare, qui est un très beau film par ailleurs,
c'est intéressant parce que ça se passe à Paris,
c'est un film européen et c'est un américain qui tourne en Europe et il a fait que des films qui se passaient en Europe sauf un très connu qui s'appelle L'Isolé. Mais ce qui est intéressant effectivement, c'est que si on compare à Borzaghi qui a fait un assez beau film, il n'y a pas cette espèce de folie expérimentale qui va caractériser l'horreur. C'est un film au fond pittoresque, amusant, émouvant, mais qui n'atteint pas cette espèce de capacité de réflexion sur l'image que Murnau est en mesure de donner aussi, parce que William Fox, en 1927, lui donne les pleins pouvoirs pour pouvoir réaliser le film avec la somme qu'il veut. Et je crois que c'était Jacques Lourcel dans son dictionnaire du cinéma qui disait qu'on n'avait jamais connu, jusqu'à peut-être quelque chose comme 2001, l'Odyssée de l'espace, un film où toutes les forces de l'industrie hollywoodienne étaient données à un projet entièrement expérimental. Et c'est ça qui fait aussi la singularité et la force de l'horreur.
Pour revenir sur le trucage, ce qui est dans la scène du mirage, ce qui est intéressant aussi, c'est que par le fait que du coup ce trucage est imparfait, en fait Murnau utilise cette imperfection, j'ai l'impression, parce que dans ce vieil effet de fond vert, en fait, on voit, on distingue la silhouette des deux amoureux avec cette espèce de petit filet de lumière qui les emporte, et du coup on revient à ce truc de la lumière bénie du couple, et donc je trouve ça complètement génial en fait d'utiliser l'imperfection du trucage pour et de s'en servir en mise en scène. Et sinon, pour revenir sur la coiffure, on en a déjà parlé, c'est vrai qu'on parle toujours d'Hitchcock dès qu'on voit un chignon au cinéma, à juste titre, mais j'avais
l'histoire du chignon dans l'histoire du cinéma si tu veux.
mais j'avais oublié à quel point c'était puissant dans ce film là le jeu des coiffures. Et il y a un truc qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est quand il y a comme deux étapes pour Janet Gaynor pour qu'elle soit finalement l'amoureuse accomplie, qui est que chez le coiffeur, en fait, on lui enlève deux épingles de cheveux et on ne lui les rend pas. Et il me semble que le coiffeur, ça arrive déjà à, disons, un tiers de la ville. Et donc, c'est comme si déjà elle avait gagné quelque chose de la vie qui était ces deux barrettes qu'on ne lui a pas rendues. Et à la fin, du coup, surgit la troisième coiffure du film, après le carré brun, le chignon blond, les cheveux longs, magnifiques d'ailleurs, pas du tout sortis de la tempête de Janet Gaynor, qui serait du coup l'accomplissement par la coiffure, avec les plans vraiment sublimes, les gros plans où elle est dans le lit. Voilà.
Tu dis quelque chose quand même de très intéressant, c'est que tu dis qu'elle gagne quelque chose de la ville. Et c'est très vrai, c'est que le personnage à la fin, et c'est pour ça que je parlais d'un personnage moteur, puisque a priori le personnage de Gaynor est un personnage un peu ingrat. C'est celle de la femme éplorée, ne souhaite que l'amour de son mari, qui lui pardonne en un claquement de seconde quand même une tentative de meurtre. Et en même temps, moi ce que je trouve très beau dans la deuxième partie, c'est que c'est un personnage qui va être vraiment le moteur de l'avancée du couple, et aussi d'une forme de... Elle est dans une perspective, c'est pour ça que je parle encore une fois de jeu. Il me semble qu'elle joue un peu avec la ville. Je pense par exemple à la scène, alors ça c'est intéressant, par exemple la scène de danse, qui part quand même, quand on regarde un peu ce qui se passe, d'une tentative d'humiliation des gens de la ville vis-à-vis de ces paysans qui sont là. Et lui en a bien conscience. Lui a bien conscience et ne veut pas y aller. De la même manière que lui, à la base, il voulait continuer à son jeu de Torane, il ne voulait pas aller chez les danseurs. C'est le cochon qui l'y amène, parce que c'est intéressant. C'est la nature qui reprend un peu ses droits. Là, en l'occurrence, il ne veut pas danser, et elle, en fait, en a conscience, et en même temps, elle veut, quelque part, en faire une expérience qui va la transformer, qui va être une expérience dynamique. Et comment, voilà, on en revient à cette idée-là, c'est que c'est elle, en fin de compte, qui dynamise vraiment la trajectoire du couple et qui la prend en charge, alors que pourtant, jusqu'à l'arrivée au mariage, on a l'impression au contraire que c'est un corps éploré, qui est inconsolable, qui ne veut pas être en présence de ce mari, qui se laisse guider sans but. Et ensuite, au contraire, elle va complètement redynamiser la trajectoire du film et lui donner aussi une forme plus dansante, plus hétérogène, plus protéiforme, plus comique. Et du coup, je n'avais pas vu le détail des épingles, mais oui, je trouve que c'est une lecture tout à fait pertinente.
Ce que tu dis de manière juste, c'est que ça souligne le caractère dialectique, tout simplement, du film. C'est-à-dire qu'il faut passer par...
On peut employer des grands mots, oui.
Oui, mais tout là, il faut passer par l'antithèse, l'autre, hein, l'opposé, que serait la ville et ce qu'elle apporte ou retire, pour pouvoir atteindre une forme de plénitude.
Reste que la ville est quand même, jusqu'au bout, par exemple, la tempête part de la ville. Donc il y a quand même cette force destructrice de la ville, ce tourbillon de lumière qu'on arrive à dompter un moment, mais voilà, qui garde quand même une forme de d'énergie maléfique, parce que quand même Murnau reste un cinéaste profondément métaphysique. Est-ce qu'il y a encore des réactions?
Ah. Alors c'est pour revenir sur la question de Méliès et les lumières. Je trouvais ça tout simplement très intéressant que le film s'ouvre sur un train, donc évidemment qu'on fait penser au train des frères Lumière. Que les vues de la ville, on dirait les vues des opérateurs de l'époque dans le premier temps du cinéma. Et évidemment, il y a un passage à la fête foraine, comme peut-être, voilà, je ne sais pas, ça me fait penser à Méliès en tout cas, cette approche-là, de la lumière, etc., du spectacle forain. Et sinon, il y a une troisième personne qui me semble intéressante aussi à lier avec ce film, c'est Jean Epstein, on en a déjà parlé, qui a fait un film qui s'appelle La glace à trois faces, avec pareil une histoire d'un homme tiraillé, bon là, il y a trois femmes, pas deux, entre différents personnages, et qui, comme ça, se perd dans la vitesse de sa voiture. Et je crois que le film est sorti exactement la même année. Et ça me semble intéressant aussi, justement, pour prolonger ce que vous disiez sur la tempête. Évidemment, pareil, la chute de la maison Usher, c'est une femme qui revient entre les morts à la fin, après une tempête. Enfin, je pense qu'il y a
Il y a des ponts à faire.
Ouais, il y a des ponts très intéressants à faire sur ces cinéastes-là, qui, dans les années 20-30, avaient, enfin, je pense, compris quelque chose assez vite par rapport à ça.
Il y a quelque chose de très intéressant aussi sur ce que tu dis sur l'ouverture, que j'ai lu dans une perspective un peu comme un gag de Murnau qui rejouerait sa propre traversée. Il y a aussi quelque chose de frappant, c'est que le film s'ouvre sur une image dessinée qui s'anime, et que de la même manière que le film s'ouvre sur un générique, sans faire de mauvais jeu de mots, voilà, où on dit l'homme, la femme de la ville, on part d'une image fixe, générique, et on l'anime. Et qu'est-ce que fait le cinéma? C'est donner de la chair à des choses qui, a priori, sont sans vie. Enfin, là, sur ça, le film a tout le temps une perspective, parce qu'en fin de compte, ce prologue ne raconte rien, sur le récit qu'on va voir, sur la relation entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça, oui, je pense que le film est très, très touffu, très protéiforme, sous l'apparence, voilà, de sa structure très, très, très... Alors, on pourrait dire binaire, on pourrait dire aussi très lisible, quoi. C'est un film extrêmement construit, en même temps, qui ne cesse de... changer de tonalité, d'opérer des variations dans la forme. Donc oui, c'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire.
Pour rebondir aussi sur le point commun que tu montrais entre le film et le cinéma d'Epstein autour, par exemple, de la question de la tempête, il me semble en fait que ce qui intéresse ces cinéastes-là aussi, c'est la capacité des images à pouvoir se fusionner entre elles, à pouvoir... C'est la question du fondu, en fait. C'est la question de dépasser le rapport.
Un grand motif de mélodrame,
aller, voilà, travailler sur la continuité et la métamorphose des images. Ce qui est un truc typique du cinéma muet, déjà, d'une part, des expérimentateurs du muet, mais ce qui va aussi constituer une réflexion, une fois de plus, sur ce que ça serait le propre même du cinéma, ça serait le mouvement qui est tellement continu qu'il n'y a plus de coupe. Voilà. Et ça, c'est très lisible dans ce que tente de faire Murnau, même s'il travaille sur, je dirais, deux dynamiques différentes, à la fois un héritage de l'expressionnisme et de l'expérimentation sur la question des fondus enchaînés, de la projection, etc. Puis en même temps, un travail très cinéma classique, en fait, sur la question du raccord signifiant. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question du raccord entre l'embrassade entre le mari et la maîtresse et l'embrassade entre le bébé et la mère. Cette idée qu'on va tout de suite utiliser le raccord comme un moyen de faire penser le spectateur, d'opérer des rapprochements, tout simplement.
C'est pas mal comme conclusion, non ? Voilà. Alors, je ne peux pas encore vous annoncer la séance suivante, parce qu'on a encore de... Voilà. Mais ça sera un mélodrame, a priori, très différent, sur un autre registre. Donc, voilà, je ne peux pas teaser davantage, parce que si jamais on ne se trouvait pas avec le bon film, je vais pas l'air très malin. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Alors, on va prendre un verre. Alors, je crois que la restriction de 10 personnes jusqu'à 22h n'est pas encore tombée. Donc, voilà, si vous voulez vous joindre à vous, vous êtes les bienvenus, et on vous retrouve donc le mois prochain. Merci à tous.
Merci.